Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie. Vous êtes en direct du studio Gisèle Halimi, Régis Thomas, Andrés Atenza, pour votre émission Kairos.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Andrés. Quel plaisir de se retrouver pour ce nouveau podcast autour d'une notion, ma foi, aussi épineuse que celle que nous avions traitée la dernière fois, à savoir le temps.
Donner à réfléchir, explorer des nouvelles notions philosophiques, aujourd'hui le temps. Justement, est-ce que nous avons le temps pour traiter en une heure cette question du temps? Alors, temps philosophique, temps physique, temps historique, pourquoi les hommes mesurent le temps? Pourquoi ils s'interrogent sur le temps? Il me semble très rapidement, Régis, si on fait référence à un pré-socratique, Héraclite, un penseur pré-socratique qui disait déjà « le temps est un enfant qui joue au dé ». Le temps de la relativité d'Einstein, le temps physique, qu'il associe à l'espace, espace-temps. C'est quand même un drôle de couple, peut-être on va le traiter. Aristote, me semble-t-il, le traiter déjà aussi sur cette complémentarité de l'espace et du temps. Être dans le temps, c'est être mesuré par le temps. Également, plus proche de nous, 18e, le grand penseur Emmanuel Kant faisait de l'espace-temps les conditions a priori de la connaissance. Et puis, peut-être une autre question difficile à traiter. Mais Régis, je pense que tu pourras l'aborder, l'irréversibilité du temps, cette question fondamentale, c'est pas une fiction, hein. Même si on remonte pas le temps, on traitera peut-être instant, moment, durée, donc vaste programme pour cette heure de Kairos avec vous. Alors Régis, tu démarres un texte que tu as produit, qui sera disponible également. On dit cela à nos auditeurs. Nous améliorons notre qualité de contribution intellectuelle et nous allons produire un texte que les personnes peuvent télécharger en complément de notre propos. Alors, on commence par Saint-Augustin.
Alors, on commence à Saint-Augustin, disons que je voudrais préciser que si effectivement traiter en une heure du problème du temps peut paraître
prétentieux,
au moins on ne perd pas son temps pendant cette heure-là à réfléchir sur cette notion. Alors saint Augustin, effectivement, il nous avertit d'un fait tout à fait que tout le monde peut observer finalement, c'est que si on ne nous demande pas ce qu'est le temps, nous en avons l'intuition, nous pensons pouvoir le définir, pouvoir le connaître. Et puis, dès que on nous demande de nous produire une définition, ben, finalement, là, les mots nous manquent. Hein. Donc, le temps, il jouit d'une certaine façon d'une certaine évidence. Hein. Regardons simplement notre écran de smartphone, si familier, l'heure qui est notée, le jour, le mois, ce genre de choses, l'année, nous font penser que toutes ces notions sont aisées à saisir. Il suffit de regarder l'écran de son smartphone.
Mais ça, c'est le temps des horloges.
C'est le temps des horloges.
C'est le temps exact, c'est pas le temps juste, c'est le temps que l'on mesure. Voilà.
C'est le temps que l'on mesure et il a quelque chose de tout à fait pratique, hein, puisque c'est grâce à ça que nous sommes à l'heure à un rendez-vous, ou pas d'ailleurs. c'est grâce à ça que l'on mesure les événements.
D'ailleurs, il faudra se poser la question de ce que c'est que la ponctualité. C'est un vrai sujet aussi philosophique.
C'est un vrai sujet, effectivement, qui a l'air anodin comme ceci, mais qui a tellement d'implications, puisque la ponctualité, c'est à la fois une question de temps, mais c'est aussi à la fois une question d'attention à autrui. Hein, donc, ça pourrait être tout à fait une notion que l'on pourrait traiter en éthique, par exemple. Voilà.
Donc, c'est difficile à définir. On le constate, bien entendu, ce temps. Donc, c'est une sorte de temps physique. On le ressent, quoi. C'est-à-dire, le temps qui passe, c'est le temps qui nous fait vieillir, quoi. Tout justement, les choses passent. Les Grecs, ils avaient quand même une manie de tout réduire à l'image de Dieu, et donc ils inventent Chronos quand même. Hein. Le fameux Chronos grec, c'est quoi? C'est ce Dieu qui dévore ses enfants, le
il
temps qui passe,
ses
il
enfants.
Passe.
Oui, voilà. C'est le présent.
Est-ce que c'est cela, le temps? Ça nous dévore.
Alors, cette image de Chronos, hein, on peut la retrouver avec le célèbre tableau de Goya, hein, Saturne, hein, c'est un tableau effrayant, hein, s'il en est. Voilà. Et ce Chronos, c'est le temps qui avale, hein, tous les instants et qui engloutit le passé dans une sorte de boulimie. Hein, incessante, hein, qui symbolise bien, comme tous les grands mythes de l'Antiquité, hein, des aspects de notre existence. Voilà, tout à fait. Hein.
Et pourtant, pourquoi les philosophes, pour dire quasiment tous les philosophes, ont eu une réflexion ou se sont interrogés sur le temps? Pourquoi cette notion est aussi importante? En démarrant l'émission, j'ai dit temps philosophique comme temps physique et temps historique. Pour la physique, la question du temps, c'est aussi important, quoi. Si aujourd'hui, nous avons des GPS qui fonctionnent très bien, on voit bien que c'est parce qu'on a mesuré du temps, que les horloges sont de plus en plus techniques, plus en plus précises, et que Einstein, dans la théorie de la relativité, et puis tous les autres prix Nobel qui travaillent sur cette question, on voit bien que c'est l'espace et le temps intimement liés, et que cette notion, les Grecs l'avaient, me semble-t-il, Régis, mais peut-être tu pourras me corriger, le Chronos, ce dieu qui dévore le temps qui passe, mais Kairos, justement, l'instant, donc, ou le moment, ce sont des questions totalement différentes. Et puis d'autres philosophes, comme Bergson, qui, lui, nous parle de la durée. Alors là, c'est de plus en plus complexe. Donc, on démarre par le temps, la mesure du temps des horloges, et puis, on laisse dériver notre pensée. Et alors là, ça devient complexe.
Oui.
Alors, comment on peut essayer de décortiquer tout cela?
Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur le temps de la science, le temps scientifique. Donc, le temps, dans la science moderne, revêt une importance toute particulière, puisque la science moderne, telle que nous la connaissons de façon familière avec l'enseignement au lycée, au collège, se fonde sur une vision physique et mathématique des choses. Donc, il y a une approche mathématique de l'espace et du temps. Hein, pour mesurer la chute des corps, par exemple, on pense à Galilée, hein, la célèbre expérience de Galilée sur la chute des corps, c'est une question de géométrisation, mathématisation de l'espace et du temps, puisqu'il faut mesurer une vitesse. Hein. Donc, il y a cette approche-là où, finalement, le temps et l'espace, hein, se couplent, finalement, extrêmement intéressant à saisir aussi. Notre approche du temps, c'est aussi une approche vis-à-vis de l'espace. Pensons à une horloge, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'une horloge? Une horloge, c'est une manière de se représenter le temps de manière spatiale. Hein, de manière spatiale. Donc, le couple espace et temps est particulièrement
et complémentaire, là.
Oui.
L'un et l'autre, c'est
voilà.
Ça.
Mais est-ce que c'est la bonne manière de penser le temps?
Est-ce que c'est la bonne... Oui, alors Régis, est-ce que c'est la bonne manière?
alors je ne vais pas donner une réponse définitive. Disons que, bon, La question est volontairement provocatrice, mais c'est en tout cas une manière pratique de d'appréhender le temps, puisque le problème du temps, c'est que réellement nous ne voyons pas le temps. Nous voyons.
On ne voit pas le temps, et vous dites, on voit les événements du temps.
Voilà, on voit des choses, des événements dans le temps.
Dans le temps.
Mais le temps lui-même, on ne le voit pas.
Le jour et la nuit, on voit bien qu'on passe du jour à la nuit. Donc, il se passe bien quelque chose.
Oui.
Il y a des saisons, passe de l'hiver au printemps. Il se passe bien des choses. Et tout ça, c'est un temps.
Voilà, hein, c'est la fameuse définition d'Aristote. Hein. Le temps, c'est le nombre du mouvement. Hein. Selon l'avant et l'après, on mesure un mouvement. Alors, mais le mouvement, ce n'est pas le temps.
Mais le mouvement, ce n'est pas le temps.
Le temps, c'est autre chose. Hein. Et cette abstraction, finalement, du temps, alors que le temps, nous sommes tellement concrets dans notre existence. Et pourtant, c'est comme l'espace. Nous ne voyons pas l'espace, nous voyons des choses dans l'espace. Mais l'espace en lui-même, on ne le voit pas. Les choses dans l'espace. C'est bien pour ça que Kant, au XVIIIe siècle, a fait, hein, vous le rappeliez au début, du temps et de l'espace, des conditions, a priori, d'expérience.
Hein? Et c'est bien cette expérience qu'il faut saisir. Pour bien saisir peut-être le début du temps ou l'expérience du temps. Vous nous invitez à faire une expérience de penser quoi sur le temps pour tenter de, si c'est possible, de saisir ou de le cerner quoi.
Ah ben précisément le temps ne peut pas être perçu en lui-même, donc nécessairement il nous oriente vers une expérience de pensée, même si dans le jeu des facultés c'est l'imagination qui nous permet d'appréhender le temps. Quand je parle d'imagination, simplement pour rappeler un certain nombre d'images qu'on associe au temps, hein, l'allégorie, le temps qui fuit. Le temps fuit, voilà, il y a le temps qui fuit. On peut penser à la métaphore aussi avec les heures qui défilent. Hein. Alors on peut penser aux heures qui défilent comme les moutons hein, que l'on compte quand on essaie de s'endormir. Voilà. Bon, donc, le temps, finalement, nous l'appréhendons de manière indirecte.
Est-ce qu'il y a des civilisations, Régis, qui mesurent, qui ont une philosophie différente du temps? On a souvent dit, je ne sais pas si cela est juste, que le temps de l'Occident, ou en tout cas le temps pensé par les Grecs, était un temps linéaire. Il y a un présent, il y a un futur, il y a un passé. Et que dans d'autres civilisations, le temps est cyclique. Est-ce que c'est juste de dire cela? Est-ce que ça nous donne une indication pour mieux comprendre le temps?
Alors, l'appréhension du temps est effectivement différente. Mais déjà, chez les Grecs, il y avait un temps cyclique. Pensons simplement, finalement, aux stoïciens, hein, avec cette idée d'un éternel retour, hein, qui marque ce temps précisément cyclique. La manière d'appréhender le temps, elle est tributaire d'un certain nombre de considérations, que ce soit des considérations théologiques par rapport à la manière dont on conçoit la création du monde, la manière dont le monde serait régi par une divinité, temps social hein, également. Par exemple, comment est-ce qu'on conçoit le temps de la nuit hein, il apparaîtrait qu'au Moyen-Âge, mais bon, quand on parle du Moyen-Âge, on parle d'une période extrêmement longue. Une autre manière de vivre le temps de la nuit et le sommeil. Hein. Vous auriez eu comme ça un premier sommeil, voilà, et puis vous vous leviez pendant une heure et demie.
Vous pouvez vaquer à quelques activités, et puis on pouvait se recoucher.
Voilà, et on se recouchait, on pouvait aller brasser sa bière et puis aller se recoucher. Donc c'est quand même une autre manière de concevoir le temps social, le temps de...
Lié à la nuit.
Lié à la nuit, qui n'est pas du tout vu comme une sorte d'insomnie passagère ou non, qui est totalement intégrée.
Donc on voit bien qu'il y a des codes et que la façon de dormir également aujourd'hui est une façon sociale, anthropologique. On ne dormait pas de la même façon, comme vous dites, au Moyen-Âge, qu'on dort aujourd'hui en disant on a besoin de 7 heures de sommeil, etc. Donc,
alors, justement,
la biologie ou la médecine sur ces questions doivent s'interroger.
Justement,
il n'y a pas de dogmatisme, quoi, peut-être.
Justement, cette notion de temps nécessaire de sommeil, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, aurait été confortée par la révolution industrielle à partir du milieu du XVIIIe siècle.
Hein. Donc le temps est vraiment politique.
Il y a une dimension économique, dimension économique du temps, qui est extrêmement importante. Pensons simplement à la façon dont l'usure était condamnée au Moyen-Âge. L'usurier, en quoi il pose problème ? L'usurier pose problème dans le sens où la richesse qu'il gagne, l'argent qu'il gagne, il le gagne avec le temps. Avec le temps, les intérêts générés par l'argent qu'il a prêté. Or, à qui appartient le temps ? Au Moyen-Âge, c'est à Dieu. Donc l'usurier, c'est celui qui vole...
Qui vole Dieu, quoi.
Voilà.
Tout à fait, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'était condamné, quoi. Et condamnable.
Alors, l'histoire de l'usure, bon, ça mériterait beaucoup, beaucoup de développement, parce qu'on trouve des conditions de l'usure très, très tôt, chez Aristote, par exemple, premier ministre politique. Mais en tout cas, il y a ce rapport au temps qui est extrêmement prégnant vers le XIIIe siècle, quand l'économie se développe dans le Moyen-Âge occidental, et qu'on voit apparaître des moyens de mesurer le temps plus fiables que c'était le cas.
Alors, je reviens au temps linéaire, au temps cyclique du passé, du présent et du futur. Il y a quelques linguistes et anthropologues qui avaient travaillé sur les Indiens Hopi, au Nouveau-Mexique, et Benjamin Lee Wolf, grand linguiste, avait évoqué que ces Indiens-là, ils n'avaient pas de verbe au futur, ni de verbe passé, tout était au présent. Et donc la notion de temps pour ces personnes-là, la représentation du temps, la représentation du monde, la façon d'imaginer le monde et voir le monde, vous imaginez parler tout au présent. Alors, c'est quoi le passé, c'est quoi le futur? Alors, pour nous, c'est plus aisé quand même. On sait tourner la page, on sait regarder un horizon, c'est ce futur. Donc, on voit bien que cette notion du temps, elle est très complexe pour, y compris, vous le dites, en parlant dans votre texte, de Ulysse. Quand il retourne, quand il revient sur son île, donc on voit bien qu'il y a eu tout un parcours qui a eu du passé, qui a eu du présent, et notamment un certain nombre de philosophes parlent bien du présent, notamment Épicure. Mais je pense que ça serait peut-être intéressant de s'arrêter un moment sur Épicure et sur cueille le jour, le fameux carpe diem. Qu'est-ce que ça veut dire ce temps présent ?
Alors. Le carpe diem, la formule est devenue, j'allais dire...
Parce que j'ai l'impression qu'on dit n'importe quoi quand on parle d'Épicure, dans le monde contemporain.
Oui.
Et on peut le dire.
Oui.
On nous fait dire un certain nombre de choses qui n'a...
Oui, mais le malentendu a commencé déjà à Rome. Dans l'Antiquité romaine, ça a commencé, puisque si on lit Cicéron notamment, on voit bien que l'épicurisme a très tôt été associé à une sorte de débauche, ce genre de choses.
Bon. Ce qui n'est pas le cas.
Donc, carpe diem, c'est une formule du poète latin Horace, c'est pas une formule d'Épicure, est aujourd'hui comprise comme une sorte d'invitation à jouir sans frein du présent. Voilà, donc vous retrouvez le carpe diem sur des magnets pour sur le frigo ou des t-shirts, tout ce genre de choses. Voilà. Alors que c'est tout sauf une invitation à jouir sans entrave. Hein, puisque l'épicurisme, c'est une morale, et c'est une morale de la régulation des désirs. Hein. Le but, ce n'est pas d'assouvir tous ces désirs. Hein. Hein, vous avez donc les désirs naturels et nécessaires, hein, comme par exemple boire de l'eau ou manger un morceau de pain, c'est naturel et nécessaire. Après, vous avez des désirs naturels non nécessaires, hein, pour lequel, là, il faut exercer un calcul prudentiel, hein, il faut savoir si les conséquences, hein, de ce que l'on va de ce que l'on va consommer, si j'ose dire, seront néfastes, seront négatives. Et après, vous avez les désirs non naturels et non nécessaires, désirs vains, comme par exemple la gloire, la richesse et ce genre de choses. Hein. Donc, quand on dit carpe diem, ce n'est pas du tout une sorte d'invitation à la débauche, comme je disais, mais cela doit être compris dans cette logique de modération des désirs, mais une modération des désirs qui va impliquer une nouvelle façon de concevoir le présent. Hein? Puisque finalement, celui qui est dans la logique du plaisir sans frein, il n'est pas dans le présent. Pourquoi ? Parce que le présent va toujours le décevoir, et toujours dans le futur proche, dans le temps d'après, dans la prochaine occasion de, pense-t-il, être satisfait. Épicure, lui, pense un présent dans lequel on retrouve cette plénitude, plénitude grâce aux souvenirs heureux que l'on peut convoquer, avec une espérance mesurée vis-à-vis de l'avenir, hein, mesurée dans le sens où on s'est débarrassé de la crainte, hein, de la peur de la mort, hein, et de la crainte des dieux, et de sorte que, hein, pour Épicure, finalement, la vieillesse, hein, n'est pas une mauvaise chose, puisque la personne âgée a suffisamment de souvenirs heureux pour remplir de manière bien heureuse son présent.
La vraie sagesse, ce n'est pas ni le ressentiment, ni les passions tristes. Hein, c'est revenir au passé, des souvenirs heureux, et le bonheur. C'est ça, la sagesse épicurienne.
Et en étant donc serein vis-à-vis de l'avenir, puisque la mort en soi, hein, doit être quelque chose que l'on ne doit plus craindre, on doit se débarrasser de ceci et de toutes les fables sur, hein, les châtiments ou la vie après la mort. Quoi.
Et notre ami Ulysse qui rentre à Ithaque, et donc vous citez Vladimir Jankélévitch, qui parle de l'irréversibilité du temps. Quel lien faites-vous, hein, entre Ulysse et son retour, et cette notion de irréversibilité chère à notre grand philosophe Jankélévitch?
Alors, disons que c'est lui d'abord qui fait le lien, puisque son ouvrage, magnifique ouvrage, L'irréversible et la nostalgie, met en scène dans quelques pages cette figure mythologique. Alors, ce n'est pas la seule occasion dans laquelle...
Ce n'est pas la seule occasion.
Hein, puisque Jankélévitch a cette particularité dans son œuvre d'écrire par variation, comme un musicien, mais il était aussi musicologue.
Il était musicien.
Et excellent pianiste.
Il pense comme un musicien,
voilà,
peut-être.
Voilà, et son œuvre se fait à partir de variations, comme il y a des variations en piano. Donc, vous avez comme ceci des figures ou des concepts qui vont varier d'une œuvre à l'autre. Et cette figure d'Ulysse, elle est intéressante parce que, précisément, son périple, alors d'abord en allant guerroyer à Troie, hein, puis son périple de retour qui constitue l'Odyssée, montre particulièrement, sous la plume de Jankélévitch, ce qu'est cette irréversibilité. Hein, il y a de très très belles pages. Hein. Alors, j'en ai reproduit une dans le texte qui sera mis en ligne. Un petit extrait comme ceci. Ulysse, comme le fils prodigue, revient à la maison transformé par les aventures, mûri par les épreuves et enrichi par l'expérience d'un long voyage. Mais, à un autre point de vue, le voyageur revient appauvri, ayant laissé sur son chemin ce que nulle force au monde ne peut lui rendre. La jeunesse, ses années perdues, les printemps perdus, les rencontres sans lendemain et toutes les premières dernières fois perdues dont notre route est semée. Alors, ça donne juste un petit échantillon du style tout à fait délicieux de Jean Kelevitch. Ça ne veut pas dire que Jean Kelevitch est un auteur facile, contrairement à ce qu'on pense. Hein, vous avez des passages qui sont techniques, mais en tout cas, une très très belle écriture.
Accessible, il faut plonger comme d'habitude dans la philosophie, cela demande un effort, hein, l'effort de la pensée, mais ce sont, par la beauté de l'écriture, et son texte, et les mots qui sont prononcés, qui sont écrits, il ouvre avec le sens de la formule, toujours dans le je ne sais quoi et le presque rien, là. C'est ineffable. Il a le sens de la formule qui invite à la pensée, quoi. C'est
tout à fait.
Cela qui est intéressant
tout à fait, tout à fait.
Pour notre Jean Kelevitch. La maîtrise donc de soi, bien entendu, pour maîtriser le temps. Dans le temps politique, nous entendons par exemple, on dit un président doit être maître des horloges. Ça veut dire quoi, être maître des horloges? Maîtriser le temps dans le sens politique. Ça veut dire que vous maîtrisez l'ordre du jour, c'est d'une telle banalité, ça veut dire ça, ou il y a autre chose pour la pensée politique?
Ah, alors la pensée politique est quand même quelque chose d'assez complexe. Il faudrait plutôt parler de pensée politique au pluriel, en fait.
Oui.
Hein, puisque, pour reprendre une métaphore du temps, chacun voit midi à sa porte. Bon, être maître des horloges, finalement, c'est une manière de dire que le gouvernant arrive à imprimer à la société, au monde politique, sa manière de faire les choses, hein, d'imprimer son rythme, le rythme des réformes, le rythme des débats. Alors, est-ce que on peut réellement être le maître des horloges de manière totalement aboutie dans une démocratie?
La réponse est non.
Bon, il est fort possible.
Parce qu'il y a toujours des événements qui viennent perturber.
Oui, et puis le propre de la démocratie, c'est le débat et l'opposition qui va contester cet ordre. Alors peut-être que chez Monsieur Poutine, c'est possible de maîtriser les horloges.
Eh bien, justement, je vous propose d'écouter la symphonie des pendules pour écouter les horloges nous dire quelque chose. Thank you. Esprit Occitanie, Kairos avec Régis Thomas et André Satenza. Et nous parlons du temps, l'épreuve du temps, espace-temps. Mais parlons maintenant d'une autre notion qui est importante. Et là, il faut convoquer Henri Bergson. C'est la question du temps et la durée. Alors là, Bergson, lui, il pense autrement ce temps en disant « c'est la durée ». C'est autre chose, c'est un autre concept, mais intimement lié au temps. Alors, est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair, Régis ?
Oui, alors, effectivement, ça fait partie des grands concepts de Bergson, et l'œuvre de Bergson est extrêmement riche. Là aussi, on parlait de Jankélévitch, hein, tout à l'heure, Bergson a une écriture formidable. N'oublions pas qu'il a été prix Nobel de littérature en écrivant que de la philosophie. Donc c'est quand même une performance, voilà. Et son approche du temps est tout à fait originale, dans le sens où il va distinguer précisément ce temps des horloges, ce temps spatialisé, hein, le temps, j'allais dire géométrisé, dont je parlais tout à l'heure, qui est très utile, ma foi, c'est un temps de l'extériorité, le temps social, hein, le temps qui nous permet d'interagir avec les autres, et la durée qu'il a, pour le coup, est une dimension, hein, pourrait-on dire, plus métaphysique des choses, hein, et qui nous ouvre à une autre temporalité plus fluide, moins segmentée, enfin, pas du tout d'ailleurs, pardon, segmentée, hein, comme peut l'être le temps des horloges. Hein. Donc, on arrive avec cette notion de durée sur une dimension propre à la conscience, hein, et une dimension qui ne peut s'exprimer par les mathématiques, par les chiffres, mais bien plutôt par l'art, par la poésie, par une approche précisément indirecte. Je parlais des images vis-à-vis du temps, hein, une approche indirecte, hein, de la temporalité.
Et donc, c'est un temps, cette durée serait un temps plus subtil. Hein. C'est ce qui nous intéresse, nous, les philosophes, cette question de la durée. C'est plus important, la durée du plaisir, la durée du bonheur, la durée des moments passés avec la famille, la durée d'une belle conversation. C'est ça
aussi, qui est intéressant. C'est effectivement une manière de...
D'ailleurs, quand on passe du temps souvent agréable avec une belle compagnie, une belle conversation, on a l'impression que le temps s'est accéléré. On dit, tiens, ça y est, c'est déjà fini, quoi.
Oui.
C'est ça.
Hein. Alors, j'espère que nos auditeurs auront cette impression en écoutant le podcast. Voilà.
Que le temps passe vite.
En tout cas, on fait tout pour ça, pour faire passer aussi un bon moment avec ces réflexions. Oui, la manière, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Épicure. Hein, il y a une manière d'habiter finalement le temps. Alors habiter, ça, c'est encore une certaine façon de mettre une image de l'espace, hein, puisque habiter, c'est être quelque part, c'est être dans un lieu. Et là, habiter le présent, c'est le vivre dans sa plénitude.
Dans sa plénitude.
Et c'est complexe de vivre le présent dans sa plénitude. C'est pas aussi facile que ça, en fait.
On n'a pas encore cité un auteur qui a marqué, en tout cas, la pensée occidentale, et un Français, Descartes. Est-ce que Descartes évoque aussi cette question de l'instant, du moment? Est-ce qu'on peut peut-être réfléchir un peu à cette question de la durée, faire le lien entre qu'est-ce qu'un instant, quel est le moment, comme le moment opportun, de type le kairos, à un moment donné. Est-ce qu'il y a ce lien dans la pensée? Mais il me semble que chez Descartes, on retrouve cette question de l'instant, de l'instant de la pensée, de ce moment de basculement.
Alors, pour penser l'instant, j'irai plutôt précisément sur le kairos.
Oui.
C'est par rapport aussi au titre de notre émission, sans doute la meilleure explicitation à faire de ce côté-là. Hein. Le kairos, c'est une notion qui est particulièrement centrale dans l'éthique d'Aristote, hein, et qui est une notion bien ancrée dans la mentalité, dans la culture grecque. Hein. C'est le moment opportun. C'est ce moment qu'il faut saisir, cette opportunité qu'il faut saisir avant, ce n'est pas le moment, après ce n'est plus le moment. Et si on saisit le kairos, on maîtrise ce qu'on appelle la contingence. Hein, là, on maîtrise la contingence des choses. Donc, c'est une notion éthique, parce que...
Et c'est une notion éthique, alors.
C'est une notion éthique parce que, précisément, celui qui doit décider de quelque chose doit le faire au bon moment, doit le faire dans le temps qui est le plus propice à la réalisation de...
Est-ce qu'on retrouve là toute la pensée de l'occasion, notamment pour les politiques, pour Machiavel, pour, dans les caractères, La Bruyère, l'homme politique, l'homme de cour, Balthazar Gracian, tous ces gens, tous ces philosophes, tous ces acteurs du politique qui disent pour prendre la bonne décision politique, il faut le bon moment, le bon temps. 5 minutes avant, c'est pas possible. 5 minutes après, c'est trop tard. Et donc, en politique, pour prendre la bonne décision, c'est de savoir saisir le temps.
Oui, alors...
Cette sensibilité assez particulière, oui. Quoi.
Alors, le lien se fait avec la Renaissance, avec l'humanisme. Et Machiavel, oublions pas, s'inscrit dans l'humanisme malgré les solutions radicales qu'il peut apporter aux politiques. Bien sûr, je recommande la lecture du Prince de Machiavel pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais cette notion de prudence, elle est fondamentale pour saisir ce rapport au temps, qui est aussi un rapport au destin, hein, à la fortune.
C'est à la fortune.
Hein, à la fortune. Ouais. Hein,
à la bonne fortune.
À la bonne fortune qu'il faut, il faut tirer par les cheveux. Comme disait Machiavel, quoi. Et précisément, chez Machiavel, on a un petit texte qui s'appelle « La vie de Castruccio Castracani » qui montre finalement qu'est-ce que l'homme qui exerce la virtu, qui est plus que la vertu, c'est une force chez Machiavel. C'est quelqu'un, en fait, qui sait analyser les instants, qui s'entraîne continuellement à analyser ce qu'il y a autour de lui pour prendre des décisions. Et là, effectivement, on peut rejoindre hein, cette notion de politique dont vous parliez et cette manière, finalement, d'analyser ce qui se passe dans le temps pour saisir ces fameux moments opportuns.
Ces fameux moments de la bonne décision. Hein, voilà. Si on revient à un autre temps, le temps historique, les historiens, par définition, s'occupent du temps. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps historique et comment les historiens interprètent ce temps? Est-ce qu'il y a une définition ou il y a quelque chose en particulier à saisir ou à comprendre cette notion du temps historique? Y a-t-il un temps historique? Si oui, c'est quoi ce temps historique?
Alors, quand on parle déjà de temps historique, il y a une distinction à faire entre l'histoire qui se fait, l'histoire...
En marche,
et l'histoire que l'on fait, c'est-à-dire l'histoire en tant que discipline.
Tout à fait.
Puisqu'en français, alors... nous avons un mot pour dire les deux choses. Bien. Le temps de l'histoire, en tant que discipline, a très longtemps été uniquement compris comme un temps de l'événement. C'est-à-dire, on compilait dans une historiographie comme ceci, les grands événements, ce genre de choses. Et puis, avec l'école des annales, au début du XXe siècle, une autre manière d'appréhender le temps s'est imposée, avec le temps, je dirais, des événements, mais surtout d'autres strates du temps. Hein, je pense notamment aux travaux de Braudel hein, sur les sur différentes couches de temps, hein, parce que un événement, c'est à la fois du...
Pour nos auditeurs, voilà. Il faut relire Braudel, quoi. C'est oui. Tellement humain, quoi. Oui, hein. Oui. On en profite chaque fois pour donner une bibliographie, faire découvrir des auteurs. Mm. Braudel, il faut que les jeunes auditeurs, si nous en avons, je l'espère, lisent Braudel, quoi. Souvent, ce sont des auteurs qu'on oublie ou qu'on néglige à l'université. Il faut revenir à ces quelques grands classiques.
Tout à fait. Et donc, il montre comment différents temps sont à l'œuvre des temps courts, des temps longs, temps économiques, temps sociaux. Voilà. C'est l'événement. Alors, c'est une expression de Georges Duby.
De Duby.
Qui disait que finalement, l'événement, c'est l'écume de l'histoire. C'est l'écume. Et en fait, le travail de l'historien, c'est précisément de plonger. Dans l'événement. Voilà. Et en comprendre.
Et analyser l'événement. Et analyser on l'événement. Ne sait pas encore. Je donne l'exemple parce que c'est très très proche, en tout cas pour l'histoire, ce temps de l'histoire. Nous avons vécu pendant 2 ans une période dite de Covid. Mm-hmm. Donc il s'est passé un événement et certains auteurs, philosophes, sociologues disent nous n'avons pas encore compris cet événement. C'est intéressant hein, de voir que nous manquons de concepts pour expliquer cet événement qui s'est déroulé devant nos yeux.
Alors précisément parce que l'événement, si on se le représente de manière spatiale, on pourrait croire que c'est juste, on a coché, fait un trait dans la flèche du temps, si j'ose dire. En fait, l'événement, c'est beaucoup plus que ça. Parce que l'événement, la plupart du temps, il est préparé en amont et il a des répercussions en aval. Et effectivement, les conséquences de l'événement, pourquoi ça fait... L'événement, c'est quoi ? C'est donc ce moment qui marque une rupture, qui marque un basculement. L'événement. Et si l'événement est aussi important, c'est que, précisément, il va entraîner un certain nombre de conséquences. Et de fait, les multiples conséquences de la pandémie que nous avons tous connues vont, comme ceci, se poursuivre, peut-être sans que nous y prêtions attention sur le moment, et puis tout d'un coup, les choses vont se...
Est-ce qu'il y a eu suspension du temps ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Alors...
En regardant cet événement, voilà, l'impression que le temps a été suspendu. Ben il s'est passé autre chose, on ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose.
Effectivement, surtout sur les premiers jours de confinement, l'absence d'activité était assez saisissante. Le temps social, pour le coup, là, était suspendu.
Était suspendu.
Et il était, de fait... plus compliqué de penser ce temps que nous avions, qui ne pouvait pas être en temps de travailler, puisque le télétravail n'était pas encore tout à fait au point, si j'ose dire. Voilà. Et c'était quand même la première fois où nous étions obligés de rester oisifs. Alors, certains ont pu voir ça de façon très, très positive, puisqu'on restait chez soi, on pouvait regarder... plein de séries, vider le frigo...
Utiliser son temps différemment...
Voilà.
Elgar Morin a eu cette phrase assez intéressante et amusante, en disant de cet événement, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est cela qui se passe. Il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé.
Oui.
Dans ce temps, voilà. Il faudra peut-être encore se plonger, peut-être que les historiens... dans le temps long, il faudra aussi du temps pour les historiens pour se replonger dans cette période de ces 2 années. Quoi.
Mais c'est précisément...
Des autres confinements quand même. Il y a eu d'autres confinements
dans
notre civilisation. Quoi.
Mais c'est précisément le travail du historien de faire comprendre. L'historien n'est pas juste là pour compiler des dates et ce genre de choses. L'historien, il est là pour nous faire comprendre le passé. Pour le rendre intelligible. C'est pour ça que, quand on s'intéresse à une période en particulier, on va avoir différentes interprétations d'un même événement.
Votre phrase là m'intéresse et m'interpelle, c'est rendre intelligible le temps de l'histoire. C'est ce que doit faire l'historien, c'est ça.
Oui, et c'est fondamental.
C'est fondamental. C'est rendre fondamental. Intelligible, hein, voilà.
Voilà.
Pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans ce temps. Est-ce qu'il y a un lien entre temps et progrès ?
Alors.
Le temps avance, donc il y a du progrès, inéluctablement. Ou il n'y a pas de progrès, ou il n'y a pas de lien entre le temps.
Déjà, l'idée de progrès, elle s'inscrit dans le temps.
L'idée de progresser.
L'idée de progresser dans le temps. Ça a l'air étrange comme ceci, mais l'idée de progrès, enfin, la valeur, si j'ose dire, le progrès en tant que valeur, c'est quelque chose qui va commencer à poindre avec la querelle des anciens et des modernes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, dernier quart du XVIIe siècle, où contre la doctrine classique qui faisait que l'Antiquité était indépassable, hein, d'autres voix s'élèvent pour dire que non, au contraire, nous pouvons dépasser, je prends Charles Perrault par exemple, hein, bien connu pour ses contes, où nous pouvions dépasser le modèle de l'Antiquité. Et ce sera l'un des credos du XVIIIe siècle, et a fortiori du XIXe siècle, qui illustre cette idée de progrès par toutes les avancées techniques qui ont marqué ce siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle de Jules Verne. C'est le siècle de la foi dans le progrès.
La foi dans le progrès.
Voilà.
Une foi d'ailleurs inébranlable, quoi.
Inébranlable.
Mais en même temps, voilà. un progrès qui nous donne cette dimension de l'oubris, c'est-à-dire l'excès, quoi.
Oui, mais c'est la grande foi du XIXe siècle. On pense aussi, pour parler philosophie, puisque c'est ça qui nous occupe, à Auguste Comte. Auguste Comte et le positivisme, hein, avec voilà, cette idée que nous serions arrivés à l'âge positif, c'est-à-dire l'âge scientifique, hein, et que grâce à cela, on pourrait réaliser une société finalement qui serait plus juste. Hein, ça, la dernière partie de son œuvre. Voilà, il y a même une religion, même un catéchisme positiviste, une religion de l'humanité, hein, où les saints sont remplacés par des grands hommes, hein, Newton, Descartes, ce genre de choses.
Il y a aujourd'hui, et on va terminer notre émission sur le temps, hein, ça passe vite, hein, ce temps. Quels sont les conseils que l'on pourrait donner à nos jeunes philosophes ou plus anciens philosophes, pour ne pas dire plus vieux philosophes qui nous écoutent.
Plus expérimentés.
Et ou des expérimentés philosophes expérimentés, pour bien maîtriser son temps. Moi, j'avais participé jadis à quelques séminaires, notamment séminaires dits managériaux, où, bien entendu, la maîtrise du temps, étant donné que c'est de l'argent, parce qu'il faut être économe du temps pour produire, parce qu'il y a de la compétitivité, etc. Et maîtriser son temps avec un bon agenda, maîtriser son temps en prenant des notes, maîtriser son temps, etc. Il y a eu foisonnement, hein, dans toutes les... Pourrait-on dire, oui, le développement personnel, toutes ces techniques que pour être heureux, il fallait bien maîtriser son temps, voilà, la maîtrise de son temps, la maîtrise de son destin, voilà, c'est ça. Et donc, passer par l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller, nous, à nos expérimentés et néophytes philosophes pour maîtriser ce temps? Quels sont les outils? Est-ce qu'il y a des outils? Une bonne horloge, une bonne montre?
Non, peut-être que le meilleur conseil, c'est d'oublier le temps.
C'est oublier le temps.
Oui, n'oublions pas cette idée qu'on trouve dans les têtes de Platon. Hein, voilà, la philosophie ne peut pas se plier au temps des horloges. Hein. Je pense notamment à quelque chose qui s'oublie dans cette façon frénétique de vivre le temps. C'est l'ennui.
Mais il faut s'ennuyer quand même.
Oui, et c'est exactement ça.
C'est ça, il faut s'ennuyer.
Alors peut-être s'il y a des parents qui nous
écoutent.
Il faut
que l'enfant s'ennuie.
Voilà.
Alors c'est une bonne éducation.
Ça a l'air quelque chose d'assez étrange.
Paradoxal d'ailleurs.
D'assez étrange comme cela, puisque tout est fait dans notre société pour que les gens ne s'ennuient pas. tout est fait pour qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Et pourtant, l'ennui, c'est une expérience dans laquelle, précisément, on vit l'épaisseur du temps et ce qui peut être vu comme un vide est aussi nécessairement une occasion de remplir ce vide et donc de développer son imagination. Donc, plutôt que des conseils pour mieux gérer son temps, le meilleur conseil, ce serait sans doute de l'oublier et d'éteindre son smartphone pour le vivre pleinement.
D'ailleurs, Jankélévitch, parce que nous l'avons cité, il y a un très bel ouvrage, un opuscule également sur la nuit, quoi.
Oui.
Jankélévitch, il faudrait le lire aussi, hein, voilà. Ce qui, en fait, en le lisant, on ne s'ennuie pas.
Non, 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 absolument pas, absolument pas. Loin de là. Très, très loin de là.
Bien, chers amis, nous voilà. Et bien le temps de vous laisser. Nous vous invitons, bien évidemment, à réagir à nos notions de temps, comme d'autres notions qui sont à venir dans l'émission Kairos, une fois par mois, bien entendu, avec Régis et André Satenza, Régis Thomas et André Satenza. On vous donne rendez-vous dans Esprit Occitanie. À très bientôt avec une autre notion philosophique.
À très bientôt à tous, à très bientôt Andrés.